Même audio. Vous ne l'avez pas vu? Vous pouvez l'entendre.
Une question toute simple, c'est quoi la différence entre un matériel militaire et un matériel civil dans la définition? Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de matériel qui peut être utilisé de manière civile et militaire. Où est la ligne? Comment ça marche?
Alors, il n'y a pas de ligne pensée. Très clair. Enfin, clair. Enfin, on va procéder par déduction. En fait, la France a une liste nationale qui couvre 22 catégories de matériel de guerre, 22 catégories génériques. C'est par exemple les armes d'un calibre inférieur à 20 mm, les véhicules blindés, les aéronefs. Donc, c'est une liste que tous les pays de l'Union européenne ont d'ailleurs, qui est identique. Et on va conclure que une partie des équipements qui ne sont pas de cette liste, qui ne relèvent pas des matériels de guerre, vont relever d'autres régimes à l'exportation qui seront soit les armes à feu civiles, soit le régime des poudres et explosifs pour certaines grenades, etc. Donc c'est parfois un travail d'enquête pour déterminer quel type de véhicule rentre dans la catégorie des matériels de guerre. Le véhicule de maintien d'ordre dont je vous ai parlé, visiblement donc était un véhicule civil. Et après notre rapport, ils ont décidé de le contrôler comme matériel de guerre quand les spécificités du blindage le permettaient. Parce que pour le blindage militaire, il y a des caractéristiques précises à respecter. Et quand ces considérations en termes de blindage ne sont pas prises en compte dans le véhicule, c'est un véhicule civil. Donc, le classement, il est fait en fonction de la dangerosité des armes par les États et en fonction de leur finalité. Mais aujourd'hui, on n'a pas de liste claire armes civiles, armes de guerre.
Bonjour. Ma question est la suivante. Si la France admet qu'elle a vendu des équipements aériens qui ont contribué à la guerre au Yémen, que se passerait-il et qu'est-ce qu'elle devrait faire?
Alors, première chose, nous, on demande l'arrêt des exportations parce que dans le cadre du conflit au Yémen. Alors déjà, premièrement, on n'a pas besoin de prouver que des armes françaises ont servi à commettre telle ou telle atrocité. Parce que le traité sur le commerce des armes et la position commune de l'Union européenne disent « vous ne pouvez pas exporter s'il y a un risque que vos armes puissent servir à commettre des atrocités ». Or, le risque, il est plus à prouver. Les Saoudiens, les Émiratis ont utilisé des équipements similaires à ceux fournis par la France et par d'autres pays, et qui peuvent nous permettre de dire que les armes françaises pourrait, au même titre que les autres armes fournies aux Saoudiens par d'autres pays, pourrait servir à commettre des atrocités. Donc le risque, il est avéré. Et du coup, d'ailleurs, on a saisi la Cour pénale internationale. On attend qu'elle se prononce pour décider s'il y aura enquête. On demande donc la fin des exportations. Aujourd'hui, on soutient un contentieux au pénal. Donc les entreprises, il y a deux acteurs à risque. Il y a l'État, il y a les industriels de l'armement. Les industriels de l'armement, donc il y a trois ONG qui ont déposé plainte contre Dassault, MBDA et Thales pour complicité de crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis au Yémen avec les armes qu'ils ont fournies. Et il y a la responsabilité de l'État. Alors c'est plus compliqué là. La responsabilité de l'État, c'est beaucoup plus compliqué parce que, alors déjà au plan administratif, on ne peut pas mettre en cause les licences d'exportation et demander leur annulation parce qu'elles sont considérées comme des actes de gouvernement. Donc, les actes de gouvernement, ce sont des décisions qui sont prises par l'État dans le cadre de ses relations internationales. Et tout ce qui relève de ce domaine-là est intouchable. Donc, on ne peut pas toucher à la politique étrangère française. La politique étrangère française est protégée par l'acte de gouvernement. Et ensuite, au pénal, devant la Cour pénale internationale, c'est ce qu'on a essayé de faire. On a déposé un dossier pour dire au procureur d'enquêter sur la complicité de personnes à l'intérieur du gouvernement. Donc on peut peut-être poursuivre des personnes à l'intérieur du gouvernement qui ont décidé et permis de décider les ventes d'armes. Ça, c'est une chose. Après, il y a un concept en droit international, c'est, pour faire simple, la responsabilité de l'État pour complicité dans la réalisation d'un fait international illicite. C'est un concept qui existe, qui a déjà été utilisé dans certains pays, qui ne l'a pas été a priori en France. Donc on pourrait potentiellement aller devant le juge administratif pour dire il y a responsabilité de l'État vis-à-vis des crimes commis par les Saoudiens. On n'est pas encore là parce que déjà au pénal c'est compliqué. Alors en termes de droit administratif, ce serait encore plus compliqué, je pense, pour y aller. Ce qui nous aide au pénal contre les industriels, c'est une jurisprudence récente dans le dossier Lafarge, où Lafarge a financé l'activité de Daesh en Syrie. Le juge a dit, vous n'avez pas besoin de prouver que Lafarge avait l'intention de participer aux crimes commis par Daesh, parce que c'est ça le droit français en général, vous devez prouver l'intention du complice dans la réalisation du crime. Là, il dit non. Il dit le simple fait de donner de l'argent à Daesh, alors qu'on sait que tout ce que Daesh commet des crimes, est une forme de complicité. Donc, ça peut nous aider devant au pénal devant pour lutter contre l'action des industriels de l'armement, quoi. Et voilà, il y a peu de risques à ce stade encore pour établir la responsabilité de l'État français. Pour le moment, le risque, il est plutôt moral, réputationnel, en termes d'image, quoi.
Bonsoir. J'ai deux questions. Ouais. La première, vous nous avez montré sur une de vos planches un A330 MRTT. Vous l'avez présenté comme une exportation française et à ma connaissance, Toulouse livre un avion civil en Espagne qui est converti en avion MRTT. Et donc, ma question, c'est est-ce que c'est une exportation française ou espagnole? Comment est-ce considéré? Ma deuxième question, c'est vous avez parlé donc des exportations d'armes. En venant à cette conférence, j'avais en tête quelque chose de plus large. La politique étrangère respecte-t-elle les droits de l'homme? Je pense notamment à des exportations de matériel civil, typiquement des avions Airbus civils, ceux-là, par exemple à la Chine, un des plus gros clients d'Airbus avions civils. Vous avez montré qu'il y avait un cadre juridique national très clair sur les exportations d'armes. Est-ce que dans le cadre d'exportation de matériel civil, il y a aussi un cadre juridique? Merci.
Effectivement, le Airbus A330 MRTT, c'est franco-espagnol. L'exportation, elle est d'abord espagnole en termes d'outils militaires. La responsabilité première, elle est espagnole, parce qu'il est militarisé en Espagne. Mais c'est un produit transnational. Donc, il y a une responsabilité aussi française, potentiellement, qui peut être mise en avant. Et du reste, les Espagnols ont plus mis en avant... La section espagnole a sorti un rapport sur la militarisation de cet équipement qui sert dans le cadre du conflit, et l'ont beaucoup plus mis en avant que nous, puisque la première responsabilité, évidemment, est espagnole. Alors, il y a d'autres produits civils, oui. Alors, il y a des produits civils, mais nous, moi, ce qui je travaille essentiellement sur les armes. Alors, Airbus, le fait de vendre des Airbus à la Chine, notre organisation n'a pas d'opinion là-dessus, en fait. Est-ce que le Airbus sert à commettre des violations des droits de l'homme? C'est la question, en fait. Nous, on fait le lien entre l'équipement et les violations des droits de l'homme ou du droit international humanitaire. Et en l'occurrence, sur le cas d'Airbus et la Chine, il n'y aurait pas de lien. Il y a des armes civiles qui, par contre, nous intéressent. Tous les équipements de maintien de l'ordre, certaines grenades lacrymogènes, certains véhicules, certaines munitions. Par exemple, en Iran, en ce moment, on a découvert qu'ils utilisaient des munitions de chasse pour faire du maintien de l'ordre, produites par la société franco-italienne Shedit. Donc ce sont des armes à feu aussi, alors qu'il y a un embargo sur les armes à destination de l'Iran. Ce sont des armes à feu qui sont contrôlées et des munitions qui sont contrôlées en France, mais pas aussi bien que les matériels de guerre, même si les matériels de guerre en plus on peut critiquer. Mais oui, il y a toute une autre série de types d'équipements qui nous intéressent. En fait, tous les équipements de police qui peuvent servir par exemple à pratiquer la torture nous intéressent, et notamment par exemple les entraves à chaînes multiples, les menottes à pouce pour les pouces, les matraques à pointe, les boucliers à choc électrique, les boucliers de maintien de l'ordre, hein. Quand vous allez au contact, vous donnez un choc électrique. Les appareils pour, vous savez, attraper les animaux, les pinces géantes, là. Ben, on fait les mêmes pour attraper des individus, mais on rajoute des pointes électriques pour quand vous attrapez la personne, vous puissiez la choquer aussi. L'avant du taser, par exemple, est un instrument civil, mais qui peut servir à pratiquer la torture. Donc voilà, on travaille sur des objets bien déterminés qui peuvent contribuer à une violation des droits de l'homme. Sur le civil, le dernier exemple Mais ça, c'est le collègue qui travaille dessus. On a l'extraction de minerais pour produire des véhicules avec des batteries au lithium, par exemple. Et la chaîne d'extraction contribue à des violations des droits de l'homme. Mais là, c'est encore un autre aspect, quoi.
J'ai une question et une remarque. La première question, est-ce qu'il y a eu un avant et un après la position commune de l'UE en 2008, je crois? Est-ce qu'il y a eu une incidence, s'il y a eu des conséquences ou pas? Parce que la remarque, c'est, je pense que ça peut être quelque chose de bénéfique, en tout cas théoriquement, vu qu'on comprend aisément la réticence de la France par rapport au volume d'exportation. Mais par exemple, mais pour les autres pays européens qui n'ont pas le même intérêt, en tout cas pas la même importance, mais pourraient aller à l'encontre des décisions de la France et ça pourrait apporter un poids et du coup peut-être ça pourrait aider un petit peu.
Non, il n'y a pas eu d'avant et d'après. C'est resté, la pratique est vraiment restée la même. Les États sont incapables au sein de l'Union européenne d'avoir une vision politique commune. L'Ukraine, c'est un peu nouveau. Pour la première fois, on a des États qui s'entendent sur un même objectif commun en termes de politique étrangère et de vente d'armes. Mais là, jusqu'à maintenant, c'était pas le cas. Et la France dit toujours dans nos discussions, mais nous, on a un grand pays. Enfin, ne parlez pas de la Suède, de la Finlande. On n'a pas les mêmes enjeux, quoi. C'est nous qui déterminons la politique de l'Union européenne et donc de vente d'armes, en fait. Mais récemment, les Allemands, en imposant un embargo sur les armes à destination de l'Arabie Saoudite, ont créé des tensions nouvelles au sein de l'Union européenne, parce que finalement, on avait deux blocs. On avait l'Allemagne, même si son embargo n'est pas parfait, puisqu'il y a des trous dans la raquette, et certains pays de l'Union européenne qui ont décidé de suspendre certaines exportations à destination de l'Arabie Saoudite, et puis la France qui n'a jamais cessé. Et ça, c'est ça qui est dramatique, c'est-à-dire que depuis mars 2015, on documente mois après mois les violations commises et les possibles crimes de guerre. Et pourtant, la France n'a jamais cessé. Et c'est là où on questionne le poids de la politique étrangère française. C'est-à-dire que la France dit « je vends des armes, donc j'ai du poids sur mon allié ». Depuis que la France vend des armes à l'Égypte, même si la France n'est pas le seul à vendre des armes à l'Égypte, la situation des droits humains n'a cessé de s'empirer. Lorsque le maréchal Assisi est arrivé au pouvoir, il n'y avait pas 60 000 personnes dans les prisons. Là, il y en a 60 000. Et sans compter les personnes qui disparaissent, les exécutions extrajudiciaires dans le désert du Sinaï. Et au Yémen, les violations des droits internationaux humanitaires ont cessé cette année avec les trêves. C'est pas parce que la France a décidé d'arrêter de vendre des armes ou parce que la France a fait passer le message aux Saoudiens d'arrêter de frapper les hôpitaux des humanitaires. MSF, s'ils se sont joints à nous en plaidoyer en France, c'est parce qu'ils en avaient ras-le-bol de se prendre des bombes de la coalition sur leurs hôpitaux de campagne. Et non, la France n'a pas contribué, de par son poids politique lié à ces ventes d'armes, à changer la pratique de ses alliés. Donc, et la politique étrangère au sein de l'Union européenne, au travers des ventes d'armes, n'a pas permis de changer également la face des pays. Et puis déjà, il faudrait s'entendre sur ce qu'est une violation des droits de l'homme. Visiblement, tous n'ont pas la même lecture. Donc il y a encore un combat à mener au sein de l'Union européenne.
Oui, il y a une dimension dans la politique étrangère de la France dont vous n'avez pas parlé, c'est toute la politique migratoire. Et dans la politique migratoire, il y a le développement en France et en Europe, au-delà de la France, mais enfin la France fait partie de l'Europe, jusqu'à preuve du contraire, de tout ce qui est la politique de Frontex. Frontex a eu un budget qui a explosé depuis des années aussi, un petit peu comme à l'image du budget des ventes d'armes pour l'Égypte. Ce budget, alors il suffit d'aller au salon de l'armement de Saclay où l'on voit l'imagination au pouvoir de toutes les industries de l'armement pour développer tout type de barrières, de contrôles, de drones, de caméras de surveillance, etc. pour, avec une seule fin, c'est repousser les réfugiés. Donc c'est une atteinte évidente aux droits de l'homme, puisque la plupart des réfugiés sont susceptibles d'être des demandeurs d'asile, y compris d'ailleurs, alors pour ne citer que cela, le cas des navires de garde-côte Frontex qui patrouillent en Méditerranée pour renvoyer les migrants en Libye, et souvent alors des Égyptiens entre autres. Bref, cette dimension-là d'atteinte aux droits humains par rapport aux politiques migratoires, qui fait partie de la politique étrangère aussi, est une dimension qui me paraît être aussi importante à considérer. Voilà.
Je suis entièrement d'accord. Et d'ailleurs, le sujet commence à émerger de plus en plus. On voit de plus en plus d'ONG se mobiliser sur cet aspect particulier et sur la façon dont les industriels développent des équipements qui potentiellement peuvent porter atteinte aux droits de l'homme. Nous, Amnesty International, on s'était opposé devant le juge administratif à la vente de Zodiac français à la Libye, sachant les pratiques de la Libye en matière de flux, de lutte contre les flux migratoires, si on peut parler ainsi. Et bon, finalement, la cession n'avait pas eu lieu. Mais oui, c'est un nouveau champ, parce qu'on le voit, il y a des nouveaux systèmes de fils barbelés avec presque des lames de rasoir qui sont mis en place. On a vu des véhicules blindés avec des systèmes d'armes acoustiques. Donc, ce sont des armes des engins qui produisent des ondes qui sont insupportables à l'oreille humaine et qui permettent d'écarter les migrants qui cherchent à passer la frontière. Donc oui, la numérisation de l'armement ou le développement de technologies nouvelles ou l'utilisation de drones, tout simplement, l'utilisation de drones pour surveiller les frontières, amenant les policiers à pratiquer des arrestations en dehors du champ des droits de l'homme, à ensuite parquer les gens dans des fermes, comme ça peut se faire dans certains pays de l'Union européenne aujourd'hui, à certaines frontières. Tout ça, il faudra y travailler dessus, oui, exactement. Tout à fait. Non, mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas... qu'il ne faut pas ignorer. En fait, on voit une militarisation croissante finalement de la politique étrangère, quoi. Avec une production et un armement à tout va sur tous les champs, dans le cadre de conflits armés, dans le cadre de la lutte contre les manifestations en maintien de l'ordre, pour réprimer les flux migratoires, etc. Donc, c'est une tendance inquiétante de ces dernières décennies.
Merci beaucoup. Juste, vous avez montré les canons César sur votre diapositive. Vous savez que la France fournit beaucoup de canons César à l'Ukraine. Alors, l'Ukraine, c'est peut-être une situation entièrement nouvelle, mais quelle est votre position vis-à-vis de toutes les armes que l'on fournit à l'Ukraine? Et entre parenthèses, la Russie semble pas tellement s'embarrasser avec les histoires de vente d'armes ou autres. Quelle est votre position là-dessus? Et puis, une autre question aussi concernant les remarques sur les politiques migratoires. Ne pensez-vous pas qu'il ne faudrait pas s'attaquer aux réseaux mafieux qui font, c'est-à-dire les passeurs, quoi, hein, qui font de la traite d'êtres humains et qui envoient ces milliers de migrants dans la Méditerranée? C'est plutôt contre ça qu'il faudrait peut-être lutter, plutôt que d'essayer de se dire à nous-mêmes qu'on a une politique peut-être anti-migratoire. Parce qu'il faut quand même, comme disait Michel Rocard, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Et je pense comment? Oui, notre part, il faut la prendre, mais les réseaux de mafieux qui vivent et qui font des fortunes sur cette traite d'êtres humains, c'est contre ça qu'il faudrait peut-être lutter. On connaît très bien que, entre autres, les douaniers tunisiens qui vivent de ça et qui règlent ces passages de la Tunisie vers la Méditerranée. Enfin, moi, c'est ce que j'en pense un peu, quoi. Il faut peut-être ne pas s'auto-flageller et voir ce qui se passe en face. Voilà. Dans l'Ukraine, quelle est votre position?
Ouais. Alors sur l'Ukraine, déjà, en 2012, on était à Eurosatory avec d'autres ONG pour dénoncer la vente de caméras thermiques par le français Thales à la Russie, avec la crainte que ces caméras thermiques destinées à équiper des véhicules blindés ne finissent en Syrie, sachant que la Russie était le principal fournisseur d'armement de la Syrie. Et en fait, plus tard, on les a retrouvés, ces armements, en Ukraine, quoi. Et donc les Ukrainiens se sont battus contre des véhicules blindés équipés de caméras françaises. D'où la complexité aussi des marchés de l'armement aujourd'hui. Alors sur l'Ukraine, pour le moment, on n'est pas contre le commerce des armes à destination de l'Ukraine. Mais aujourd'hui, Amnesty International, comme d'autres ONG, on regarde comment les Russes, bien sûr, utilisent ces armements. Et depuis février, on a largement dénoncé l'utilisation de l'armement russe. Mais on regardera aussi, on regarde ce que font les Ukrainiens. Si un jour on apprend que les Ukrainiens commettent des crimes de guerre, à ce jour, nous ne l'avons pas documenté, mais si un jour on l'apprend, au moyen d'armes occidentales, on dénoncera, parce qu'il n'y a pas de bonne guerre, si vous voulez. Effectivement, c'est un crime d'agression, on a dit que c'était un crime d'agression, mais l'agressé comme l'agresseur sont tenus de respecter le droit international humanitaire. Les deux. Donc, on le dénoncera de la même façon qu'on l'a dénoncé au Yémen, les violations des droits de l'homme commises par les Houthis et celles commises par l'Arabie saoudite. De la même façon qu'en Éthiopie, on a dénoncé les violences sexuelles et les viols à répétition commis d'une part par les forces loyalistes au gouvernement éthiopien et d'autre part celles comme les violences commises par les forces de la région Amhara et du Tigré. Donc Amnesty ne prend pas position sur un pays ou un autre, on dénonce des violences, des violations. Donc si un jour ça doit arriver, dénoncer des violations commises par les Ukrainiens, on fera. Pour le moment vous avez sans doute entendu parler, on a juste dénoncé les tactiques de guerre des Ukrainiens par un CP du 4 août les Ukrainiens l'ont très mal pris, sachant que Human Rights Watch l'avait déjà dénoncé et que le Conseil des droits de l'homme l'avait aussi déjà dénoncé. Bon, ça. Sur les politiques migratoires, nous, Amnesty, on est très attachés au droit d'asile au respect du droit des réfugiés. Donc, nous, ce qui nous importe, c'est de mettre les États face à leurs responsabilités. En Libye, on a largement dénoncé le comportement des autorités, des milices sur place qui font du trafic d'êtres humains, maintenant des conditions abominables tous les migrants. Après, travailler sur les passeurs, je pense que ça relève d'une autre dimension, travailler sur des réseaux criminels qui peuvent rentrer dans l'escarcelle, si on peut prendre cette expression-là, d'autres ONG. Nous, notre premier objectif, c'est de travailler et dénoncer l'action des États. Bon, après, pour si on doit parler de politique migratoire, les Nations Unies, le financement des États devraient être mis en place pour aider au développement, à la gouvernance, faire en sorte d'éviter que les gens n'aient pas de raison de fuir. Au Yémen, les gens fuient. Alors, il n'y a pas beaucoup de gens qui fuient à l'étranger, mais en Éthiopie, il y en a qui fuient au Soudan, il y en a qui fuient à l'Afrique de l'Ouest pour rejoindre l'Europe, mais ils fuient aussi quoi ? Ils fuient des conflits, ils fuient des conditions de précarité inhumaine. Je mets pas cher sur notre peau si on échangeait nos vies, quoi. Donc voilà. Donc il y a des instruments qui existent.
Ok. René, vas-y. Normalement, tu devrais pouvoir.
Ah, est-ce que vous m'entendez ?
Allez, c'est bon. Ouais, c'est bon.
Bon, d'accord. Ok. Moi, je voulais revenir à l'industrie de l'armement en France, qui a été, me semble-t-il, développée sous l'impulsion de Gaulle au départ pour assurer l'indépendance nationale, et donc ça a permis d'équiper la France de manière indépendante des États-Unis en particulier. Et je voudrais savoir aujourd'hui, la production de l'industrie de l'armement à destination de l'équipement de l'armée française représente quelle part de son activité. Deuxièmement, on entend dire en permanence que l'armée française actuellement est complètement sous-équipé et qu'il serait urgent de faire quelque chose. Est-ce qu'il y aurait donc pas une bonne reconversion à faire de la destination des armes produites par la France pour qu'elle s'équipe elle et non pas qu'elle équipe les dictatures étrangères? Ça permettrait de maintenir l'activité d'armement et donc l'emploi sans contribuer à la dégradation des droits humanitaires. Une dernière remarque concernant l'Ukraine. On dit actuellement, pour envoyer des armes à l'Ukraine, on est obligé de se dépouiller, on est obligé d'interrompre des contrats avec d'autres pays européens, etc. Donc, ça veut dire quand même que la quantité d'armes produites par la France et par les autres pays européens n'est pas si importante que ça, puisque on n'arrive même pas à assurer la fourniture d'armes à l'Ukraine sans se mettre soi-même en péril. Donc voilà. Et donc il y a des questions quand même qui se posent. Alors est-ce que une façon de maintenir l'emploi, puisque c'est, apparemment c'est un argument qu'on nous oppose régulièrement, et tout en n'exportant pas d'armes, ce serait de réduire la destination des armes produites en Europe à l'Europe, parce que l'Europe c'est quand même un grand marché. Et est-ce qu'on pourrait pas se contenter du marché européen pour faire vivre l'industrie de l'armement, et en envisageant éventuellement à ce moment-là quelle reconversion possible pour les industries qu'il faudrait arrêter? C'est quand même une industrie technologique de pointe, et donc on doit pouvoir la reconvertir dans d'autres domaines, par exemple l'équipement pour la lutte contre le changement climatique, par exemple. Mais il faudrait proposer des alternatives.
Oui, clairement. Alors, je sais pas si je vais pouvoir répondre à tout, mais oui, effectivement. Alors, sur le fait que l'armement, les armées françaises sont sous-dotées. Oui, effectivement, il y a de plus en plus de rapports qui sortent dessus. Notamment, je crois qu'il y a un rapport dernièrement qui a été produit par la Fondation pour la Recherche Stratégique qu'il faut absolument lire, où on apprend effectivement que la France manque un peu de tout. En fait, la France a développé tous les secteurs stratégiques des armées, c'est-à-dire on a des capacités de pointe dans le naval, dans l'aérien, dans le terrestre, mais pas beaucoup, en fait. Et notamment, par exemple, les chars Leclerc dont nous disposons, il y en a une bonne partie qui sont dans des hangars et qui ont été cannibalisés parce que, faute d'avoir pensé au-delà de leur production la nécessité d'avoir des pièces de rechange, on a cannibalisé ceux existants pour pouvoir au moins en maintenir en partie en condition opérationnelle. Et ça va même, au-delà de ça, ça va jusqu'à enlever des armements prévus aux armées pour satisfaire en priorité le client. Et ça a été notamment le cas en Égypte où une des corvettes Goodwin qu'on devait fournir aux Égyptiens, pour les satisfaire au plus vite, celle qui était prévue d'abord aux Français a été fournie finalement aux Égyptiens. Donc ça entraînait un effort supplémentaire financier aux armées françaises pour entretenir le bâtiment qui devait être remplacé. Et pareil pour le Rafale. Les premiers Rafales vendus à l'Égypte, on les a pris sur la chaîne de production destinée aux armées françaises pour satisfaire le client égyptien, parce que le maréchal Sissi voulait absolument des Rafales à l'ouverture du nouveau canal de Suez. Donc il y a des choix qu'ils ont fait, toutes ces politiques. On pourrait mettre dans la balance, en plus de vos questionnements, la question de l'armement nucléaire. Quand on développe l'armement nucléaire, on pourrait dire aujourd'hui on arrête de développer l'armement nucléaire qui n'apporte rien de concret pour l'utiliser à d'autres fins. On pourrait développer le marché de l'armement européen, comme vous dites. Seulement, comme en matière de politique étrangère, il est compliqué pour les Européens de s'entendre pour produire de l'armement commun. On le voit, Français et Allemands en ce moment ont du mal à s'entendre sur la production d'un armement, d'un avion du futur, de 5e génération, même sur produire ensemble un char entre Français et Allemands, c'est compliqué, on n'arrive pas à s'entendre. On produit tellement lentement que les Polonais préfèrent acheter aux Américains, parce qu'ils ont l'assurance d'être fournis plus rapidement en hélicoptère de combat et d'avoir la maintenance qui suit. Mais tout est politique. Je veux dire, on pourrait très bien faire le choix. Quand la France a fait le choix de mettre 40 milliards au fil des années sur la table pour développer le Rafale, si on est capable de faire ce choix politique, on est capable aussi de faire le choix de ne plus vendre à des clients pour lesquels les transferts sont illégaux, pour au contraire équiper nos armées. Mais c'est un choix qui n'a pas été fait, parce qu'on se sert de l'armement aujourd'hui comme un moyen d'avoir accès à d'autres marchés. L'armement technologique fourni par comme par exemple les navires de combat ou le Rafale, c'est aussi un moyen d'avoir accès à des marchés civils extrêmement importants. Et donc tout est lié, c'est l'effet boule de neige. Et à partir du moment où vous n'avez pas une parole forte pour dire on vous vend, mais vous devez respecter les considérants droits de l'homme et droits internationaux humanitaires, vous ne serez pas respecté ni entendu. Et aujourd'hui, le premier à avoir réhabilité MBS dans le monde, c'est Emmanuel Macron après l'assassinat de Jamal Khashoggi. Donc, à la France de faire les choix politiques, de développer un marché européen, de permettre d'avoir un marché européen avec les Allemands et d'autres pays, et comme ça, on sera moins dépendant de la vente à l'extérieur. Mais le problème dans tout ça, c'est que à partir du moment où vous avez personne pour contrôler que la France respecte les engagements internationaux au sein du Parlement et au sein de la société civile, parce qu'on manque d'outils, on manque de données, on manque d'informations, on manque de moyens d'aller au contentieux, tant que vous avez personne pour mettre en avant la responsabilité du gouvernement et de le contredire sur certaines ventes, on n'avancera pas. Et ça sera pareil pour produire un marché européen. Un marché européen, il faut le faire, mais il faut le faire aussi avec les parlementaires et avec les politiques. Donc ces débats-là en France n'ont pas lieu. Tout le débat est confisqué. C'est aussi la difficulté, quoi.
Juste une remarque un peu perso, mais que je vais vous donner, et puis une question après à Aymeric Hélin. La remarque, c'est pour illustrer quelque chose que j'ai vu fonctionner, la difficulté de donner un avis sur une demande de licence d'exportation. à un moment, j'ai eu un coup de fil de cette commission en me demandant si on pouvait donner le feu vert à une entreprise qui est maintenant dans Thalès, qui fait les amorces de l'armement nucléaire française. C'est un tout petit tube émetteur de neutrons, miniaturisé, extrêmement complexe comme technologie, qui vaut très cher. Et les Français se sont rendus indépendants de la technologie américaine dans ce domaine. Et la société demandait une licence d'exportation pour faire en Chine, c'est une demande d'exportation en Chine, d'exploration minière. Alors c'est sûr que quand on fait de la physique des neutrons, le même principe peut faire péter une bombe thermonucléaire ou nucléaire et peut aussi faire la cartographie de la saumure, du pétrole et du gaz naturel dans un forage. Mais c'était complètement caché. Et personne à la commission n'avait la compétence pour dire il y a un peu une escroquerie derrière ça. Bon, ça, c'était ma petite remarque. La deuxième, c'est une question à Émeric Éluin. On n'a pas beaucoup parlé de la, on va dire, de la propriété financière des entreprises d'armement français. Depuis les années 80-90, il y a eu un vent de privatisation progressif et presque général, à part Naval Group. J'ai l'impression que pratiquement tout est passé d'un domaine quasi public à un domaine quasi privé. Et qu'en plus, moi j'ai découvert ça en préparant la réunion de ce soir, qu'une partie importante de ces industries de fabrication d'armement, en particulier de véhicules, de blindés, etc., a été associée à des entreprises suédoises, allemandes, britanniques, et que maintenant, je dirais, le poids de la puissance publique française et même des investisseurs français dans ces sociétés est dérisoire. Et alors, il y a quelques exemples caricaturaux. Tout ce qui était avant la fabrication des jeeps françaises, des commandes cars, des plateformes de chars, etc., ça a été passé à Renault, qui Renault a été privatisé, qui l'a passé à Volvo. Donc Arcus, c'est une société dont le capital est quasiment complètement Volvo. C'est-à-dire que l'armée française commande des jeeps à une entreprise qui est suédoise, enfin, qui est une filiale en France d'une entreprise suédoise. Dernière chose, alors là, vraiment, je suis tombé de mon fauteuil, Nexter, qui est en gros le regroupement de toute la fabrication des blindés français, qu'ils soient d'origine privée, comme Brunard, ou qu'ils soient d'origine publique, comme les AMX, qui a fait Charles Leclerc, a été associé à une entreprise allemande qui s'appelle Krauss-Maffei, qui est un grand fabricant de trains et de chars et de blindés, et que Krauss-Maffei a fusionné avec Wegmann. Et donc l'entreprise maintenant, qui est une entreprise publique à capitaux un peu privés français, un peu public français, est majoritairement allemande. Et si vous cherchez quels sont les possesseurs de cette firme, vous trouvez trois familles qui ont été toutes, pour ceux qui parlent allemand, Kriegsgeschäftsführer, décoré par Hitler, avec un des ordres supérieurs de l'armée du Reich. Ils ont fait une grande partie des chars qui se sont battus contre l'armée soviétique et contre l'armée française, britannique et américaine en Afrique du Nord. Et alors, pour faire un peu rigolo, Wegmann était le constructeur des trains privés du Führer. Et donc, Adolf Hitler est parti de Munich pour venir à Paris quand Paris était occupé dans un train Wegmann. Et Wegmann est maintenant l'actionnaire majoritaire de Nexter, Wegmann, Krauss-Maffei. Donc c'est quand même un petit peu rigolo.
Édifiant surtout.
Je crois qu'on va s'arrêter là. On va remercier Émeric Éluin de cet exposé très complet. Je voudrais dire, c'est pas pour lui faire plaisir, mais je lis assez régulièrement les gazettes diffusées par Amnesty International. Il y a sur le site et dans les gazettes un certain nombre d'informations extrêmement précises, très bien documentées, très bien illustrées, graphiquement aussi agréables, même si c'est des choses horribles, dans les plaquettes et sur le site d'Amnesty International. Merci beaucoup à tous.
Merci à vous.
Même audio, une mémoire sonore.